Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, dans cette biographie croisée. Jean Descartes étudie François-Joseph Ier d'Autriche et Élisabeth de Wittelsbach, dite Sissi, comme un couple impérial autant que comme deux tempéraments difficilement conciliables. L'ouvrage, publié chez Perrin et repris en format Timpus, couvre leur union, de 1854 à l'assassinat de l'impératrice en 1898, en reliant l'intimité des souverains aux transformations de l'Empire des Habsbourg. Le titre fournit sa ligne directrice, l'empereur est défini par la discipline administrative, le sens de la continuité dynastique et l'obligation de gouverner. Sissi, par son rejet du cérémonial viennois, son besoin de liberté et sa résistance au rôle prescrit. Jean Descartes ne se limite donc pas à l'image légendaire popularisée de l'impératrice. Il examine le fonctionnement fluctuant de cette monarchie conjugale. Les deuils qu'il éprouve, les arrangements affectifs qui la rendent durable et les contraintes politiques qui pèsent sur elle. Illustrée et écrite dans un style narratif, cette étude vise à rendre intelligible à la fois des destins personnels et la fragilité croissante de l'Autriche-Hongrie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le devoir impérial de François-Joseph face à une monarchie en crise. Jean Descartes fait de François-Joseph un souverain pour qui l'exercice quotidien du pouvoir prévaut sur l'épanouissement privé, son attachement au travail de cabinet. Au protocole et à la continuité de la dynastie explique une grande part de sa personnalité gouvernée et pour lui moins un choix qu'une obligation morale. Cette disposition donne à l'empereur une remarquable constance, mais elle révèle aussi ses limites. Dans un empire composite, traversé par les revendications nationales et exposé aux rivalités européennes, la fidélité aux méthodes anciennes ne suffit pas à résoudre les crises. Le livre souligne ainsi le contraste entre l'application du monarque et certaines insuffisances de son jugement politique, notamment dans ses rapports avec les puissances qui redessinent l'équilibre continental, telles la France de Napoléon III et l'Allemagne de Bismarck. L'intérêt de ce portrait est d'éviter une opposition simpliste entre un souverain sérieux et une épouse brillante. Le sens du devoir de François-Joseph soutient l'institution et lui permet de survivre à des épreuves considérables. Simultanément, sa rigidité entrave son adaptation. La biographie invite donc à considérer le pouvoir dynastique comme une fonction qui exige endurance et discipline, mais qui peut isoler celui qui l'incarne des changements sociaux, nationaux et diplomatiques en cours. Deuxièmement, Sissi, le refus du protocole comme expérience personnelle et politique, la rébellion de Sissi n'est pas présentée comme une simple fantaisie romantique. Elle naît de sa confrontation précoce avec une cour de Vienne très codifiée où chaque comportement de l'impératrice est soumis à des attentes familiales, cérémonielles et dynastiques. Jeune épouse, Élisabeth supporte mal cet encadrement, aggravé par la place dominante de sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, ses départs. Son goût pour le mouvement et sa distance à l'égard de la représentation officielle apparaissent alors comme des façons de préserver une autonomie que le mariage impérial a, fortement réduite. Jean Descartes montre cependant que cette résistance à un coup l'éloignement ne supprime ni les responsabilités de Sissi, ni les tensions qu'il crée avec son mari et la cour. Cette lecture corrige l'image d'une impératrice uniquement frivole ou décorative, sans la transformer artificiellement en dirigeante. Le livre met en avant sa sensibilité aux réalités de l'Empire, notamment son attention à la Hongrie et son inquiétude devant les fragilités balkaniques. La singularité de Sissi tient ainsi à ce paradoxe, elle refuse les formes ordinaires de la fonction impériale, tout en pouvant percevoir avec justesse certains enjeux que la routine gouvernementale minimise. Troisièmement, une union passée de l'élan amoureux à une cohabitation négociée. L'un des apports centraux du livre réside dans l'étude du couple plutôt que dans la juxtaposition de deux biographies célèbres. Les débuts de François-Joseph et de Sissi sont associés à une attraction réelle et à la force d'un choix amoureux dans un univers dynastique. Mais l'union est rapidement soumise à des contraintes que l'affection ne peut dissoudre la présence de la famille impériale, les exigences de la succession, les déplacements de Sissi et l'inégale disponibilité des époux. Jean Descartes décrit dès lors une relation mouvante qui connaît brouille, éloignement, accommodement et retour à une forme d'entente. Le terme de monarchie conjugale est utile parce qu'il rappelle que leur relation est simultanément privée et institutionnelle, chaque crise personnelle peut affecter l'image, la stabilité ou les alliances de la maison des Habsbourg. Le livre insiste également sur les deuils familiaux, dont la mort du prince héritier Rodolphe Hammerling, qui modifie durablement l'équilibre affectif et dynastique. L'analyse ne prétend pas que le couple se réconcilie dans une harmonie idéale. Elle met plutôt en évidence une loyauté persistante capable de survivre à l'incompatibilité des modes de vie. Cette complexité explique pourquoi leur histoire dépasse le cliché du mariage malheureux, elle montre comment des liens durables peuvent se maintenir par la confiance, les compromis et la reconnaissance des besoins de l'autre. Quatrièmement, l'intimité impériale et la place des arrangements affectifs. Jean Descartes aborde la vie sentimentale du couple avec une attention particulière aux conventions de discrétion propres aux cours européennes. La relation de François Joseph avec l'actrice Katharina Schratt, souvent évoquée dans les récits consacrés aux Habsbourg, n'est pas traitée seulement comme un épisode scandaleux. Elle sert à éclairer la manière dont un mariage impérial, fragilisé par les absences et les souffrances, peut trouver des formes d'équilibre qui ne correspondent pas à l'idéal conjugal traditionnel. Le point important est moins l'anecdote que la confiance et la retenue nécessaires à cet arrangement si ne se réduit pas à une victime passive. Et François Joseph ne rompt pas pour autant son attachement à son épouse. Cette dimension exige toutefois une lecture prudente. Les sources sur l'intimité des souverains sont inévitablement médiatisées par des témoignages, des correspondances et des traditions biographiques. Une biographie narrative ne doit pas être confondue avec une certitude sur chaque sentiment. L'intérêt de l'ouvrage est précisément de replacer ces relations dans un système de contrainte solitude du souverain, éloignement de l'impératrice, surveillance de la cour et nécessité de protéger la dignité publique. Ainsi, l'intime n'est pas séparé du politique. Il révèle comment les personnes au sommet de l'État cherchent des espaces de liberté tout en restant captives de leur rang et de leur image. En dernier lieu, du destin des Habsbourg à la poudrière des Balkans. La biographie relie les difficultés du couple à l'histoire plus large d'un empire austro-hongrois confronté à des tensions de plus en plus difficiles à contenir. François Joseph règne sur un ensemble de peuples, de langues et de confessions dont l'unité dynastique ne garantit pas l'adhésion politique. Jean Descartes rappelle que les choix du souverain doivent être lus dans ce cadre, et non à la seule échelle de la famille. La Hongrie occupe une place importante dans cette configuration, l'intérêt de Sissi pour le pays et ses liens avec ses élites contribuent à nuancer l'image d'une impératrice étrangère aux affaires. En contrepoint, la montée des conflits dans les Balkans apparaît comme un signe annonciateur de la vulnérabilité régionale de la monarchie. Le livre ne fait pas de Sissi une prophétesse infaillible, mais il valorise sa capacité à sentir les dangers d'un espace où se heurtent ambitions nationales, appartenance religieuse et rivalité internationale. La fin de leur vie donne à cette lecture une gravité particulière. Sissi est assassiné par un anarchiste en 1898, tandis que François Joseph meurt en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. L'Empire lui survit peu, en reliant la tragédie familiale au déclin des Habsbourg. L'ouvrage montre que les drames privés et les fractures géopolitiques peuvent se refléter mutuellement sans pour autant se confondre. En conclusion, François Joseph et Sissi, Le devoir et la rébellion s'adressent d'abord aux lecteurs attirés par les Habsbourg, l'Autriche-Hongrie et les biographies de souverains européens. Il conviendra également à ceux qui connaissent Sissi surtout à travers les représentations romanesques ou cinématographiques et souhaitent retrouver un cadre historique plus consistant. Le bénéfice intellectuel du livre tient à son double regard. Jean Descartes fait comprendre les comportements des deux époux à partir de leur caractère, mais aussi à partir des obligations concrètes de la monarchie. Le lecteur peut ainsi mieux mesurer ce que le protocole, la succession, les deuils et les crises nationales imposent à une vie privée placée sous observation permanente. L'ouvrage se distingue dans une abondante bibliographie consacrée à Sissi par son choix de ne pas faire de l'impératrice l'unique centre du récit. François Joseph reçoit une attention équivalente, ce qui permet de saisir la logique de son travail, de sa prudence et de ses erreurs, plutôt que de le réduire au rôle du mari distant. La formule du devoir et de la rébellion organise efficacement cette biographie croisée. Sans effacer les ambivalences, l'empereur n'est pas seulement rigide. Sissi n'est pas seulement insoumise. La place accordée aux arrangements affectifs, à Meyerling, à la Hongrie et à l'horizon balkanique, donne enfin au livre une ampleur qui dépasse la chronique mondaine. Ce n'est pas un ouvrage universitaire spécialisé ni une enquête archivistique exhaustive. Sa force est de proposer une synthèse vivante, accessible et nuancée entre histoire dynastique, psychologie conjugale et contexte politique. Si vous souhaitez soutenir Jean Descartes, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.